sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales patriotas.
Sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore. Angèle, condamnée à mort.
Non, je viens de loin, moi. De très, très loin. De très, très loin. Mais je le paye cher. J'ai toujours quelque chose. Mais déjà, un docteur m'avait dit, à Paris, s'il vous plaît, de vous, quand vous avez mal, quelque part, quand vous sentez mal, il faut venir tout de suite me voir. Parce que quand vous vous sentez un peu de mal, pour quelqu'un d'autre, c'est très, très mal. Et c'est vrai que je résiste beaucoup. Le mal, je résiste beaucoup. Puis, je me conditionne. Hein. Je parle avec ma mère, moi. Tout le temps. Quand je me conditionne, je parle avec ma mère. Et je ne suis pas croyant, hein. Pas croyant. Mais j'ai toujours gardé l'image de ma mère. Quand je parle avec elle. Mais tout le temps. Hein. Mais les matins, quand je fais ma toilette, je m'en vais à ma fenêtre et je parle. Comme ça. Ne serait-ce que dire bonjour, comme ça. C'est une façon de me conditionner. Et ça m'a toujours sauvé. Et je crois que je suis encore en vie. C'est parce que je me conditionne.
Nous sommes en 1949. Angèle, réfugiée après la guerre civile d'Espagne, vit en France. Il milite au sein de la CNT, Confédération nationale du travail. À 19 ans, pris par les sentiments, il accompagne en Espagne un groupe de maquis anarchistes pour une mission qu'il ignore. Il doit seulement conduire un camion, une absence qui devait durer quelques jours. La mission est finalement avortée. Angèle et ses compagnons sont arrêtés. Trois d'entre eux, Fabien Núñez, Rogelio Borrillo et Jorge Camón, meurent lors de leur affrontement avec la garde civile. Après avoir été battus sauvagement, puis torturés lors de différents interrogatoires à la caserne de Caspé, les gardes civils finissent par mettre Angèle et ses compagnons dans une camionnette. Ils sont persuadés qu'ils vont être fusillés. La douleur intense leur fait même espérer la mort. La machine répressive des opposants politiques à Franco est en marche.
Ils ne nous ont pas tués, ils nous ont emmenés à Huesca, à la prison de Huesca. Et là aussi, nous avons eu notre part de souffrance là aussi. À Huesca, on a mis dans des cellules individuelles. La cellule devait faire 1,20 m de large, 1,50 m. Par 4 mètres de long, à peu près. Très haut. Hauteur 3 ou 4 mètres en hauteur. Une petite lampe. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de baissé ni rien. Rien. Alors, on me donne une boîte pour faire ses besoins. Des grandes boîtes de conserve, de 4 ou 5 kilos, là, de thon ou de sardines, tout ça. Et une assiette toute rouillée. Et une paillasse. Alors, au bout d'un moment, eh bien, il ouvre de nouveau la cellule et il me dit de le suivre. Je le suis, un couloir assez long, très étroit, et au bout du couloir, il y a un robinet. Alors, on prenait l'eau avec l'assiette pour manger, là où il donnait à manger. Et puis, on rentrait dans la cellule avec cette assiette pleine d'eau. Justement, le problème, c'est qu'à midi, quand ils venaient te donner à manger, il fallait mettre à manger dans l'assiette. S'il y avait l'eau, et l'eau, je ne voulais pas la jeter. Pas question de jeter l'eau. Alors quoi faire? Mais je mettais l'eau dans la boîte de conserve. D'ailleurs, moi, je ne pouvais pas rien faire, parce qu'on m'avait serré tellement fort les menottes que j'avais pas de main, c'était des ballons que j'avais, bleus, tout bleu, presque noir. Je ne pouvais rien prendre avec les doigts, je ne pouvais rien faire. Donc, ils donnaient à manger. Je ne dis pas ce qu'ils nous donnaient, ce n'est pas la peine. Vous pouvez vous imaginer peut-être. Moi, je ne pouvais pas tenir l'assiette. Je ne pouvais pas rien faire avec mes mains. Je ne pouvais pas tenir l'assiette. Donc l'assiette était par terre. Je ne fais que la pousser, moi. Je ne pouvais pas la tenir, l'assiette. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils me mettaient à manger là. Une louche de je ne sais pas quoi, dans l'assiette. Et je traînais mon assiette jusqu'à la paillasse. C'est moi, quand j'arrive à la paillasse, et bien, il y avait une cuillère là-bas aussi. Mais je ne pouvais pas prendre la cuillère. Eh bien, je prenais mon assiette comme je pouvais, et je la levais jusqu'à ma paillasse, pour qu'elle soit un peu en haut. Et quand j'arrive à la paillasse, je mangeais comme un chien, tout simplement. Voilà, comme un chien. Je tenais un peu avec mes mains là, comme ça, je le levais un peu comme un chien. Voilà.
Je repose ma tête entre mes mains, avec une grande désespérance, sans pleurer, ni aucune lamentation. Tout à coup, ma petite étoile est là. Je retrouve ma volonté, ma rébellion. Non, ces jolis ne me vaincront pas, ni avec leur mauvais traitement, ni avec leur sévice physique et moral, accompagné du spectre de la mort. La liberté que je porte en moi, personne ne pourra me l'enlever.
Après, j'ai eu une bataille énorme, moi et mes mains. Là, ça a été du conditionnement à 100%, quoi. Moi, j'ai parlé à mes mains. Je suis pas fou, mais je parlais à mes mains, moi. Enfin, je crois que c'est pas fou. Et petit à petit, puis un jour, j'étais couché dans ma paillasse, là, toujours avec l'obsession de ma main, et j'ai senti le fer, quoi. C'était l'assiette que j'avais à côté. Et là, j'ai vu que je bougeais les doigts. Et là, quand j'ai bougé les doigts, quel bonheur! Quel bonheur! On ne peut pas s'imaginer. Quel bonheur! Alors, quand ils sont arrivés pour me donner le café qu'ils appelaient, leur salle, eh bien, je suis allé avec mon assiette, je les patinais par terre. Ils m'ont regardé de l'air, en disant, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, j'étais fier de moi. Et de là, de Huesca, on l'envoyait à Saragosse.
Le 16 mars 1950, un tribunal militaire à Saragosse nous condamne à la peine de mort. Dès notre retour à la prison, nous sommes enfermés individuellement dans des cachots immondes, où même les rats n'osent s'introduire. J'ai 20 ans et plus d'espoir de vie. La nuit tombée, nous attendons l'ouverture de la porte, qui nous conduira au piquet d'exécution pour y être fusillés.
Après 55 jours et nuits sans lendemain, le 10 mai 1950, vers 1h du matin, 5 sont poussés hors de leur cellule. Mariano Liovet, 44 ans. Alfredo Cerbera, 37 ans. Manuel Rodenas, 31 ans. Jorge Ramos, 30 ans. José Capdevilla, 29 ans. Sont fusillés contre le mur du cimetière de Torrero, à Saragosse. Les balles terminent avec leur souffrance. Quant à Angel Fernandez et José Ibanez, les plus jeunes, leur peine de mort a été commutée par celle de 30 ans de réclusion criminelle.
Bien plus tard, j'ai appris que notre grâce a été obtenue, suite à l'intervention du président de la République française, M. Auriol, que mon père, ancien combattant et grand blessé de guerre, a rencontré à plusieurs reprises sous l'occupation allemande. Cette arrestation, les séances de torture et les conditions de rétention très dures n'ont pas laissé mon corps indemne. J'ai besoin de soins de manière urgente.
Avant d'être jugé, par exemple, j'avais pas droit à aller dans un hôpital ni quoi que ce soit. Ça, pas question. Tu crèves, un point, c'est tout. Une fois que tu es jugé, on ne peut pas tenir garder quelqu'un qui est malade. Soit on le laisse mourir quand même, hein, de façon ou une autre. Mais moi, j'avais besoin d'une opération. On m'a détruit les intestins, détruits. Tu ne peux pas t'imaginer ce que j'ai souffert quand j'ai parlé de mes mains. Je ne te dirai pas ce que j'ai lâché à Casper avant de partir au Huesca. Ce qui est resté dans les WC là-bas. Tu ne peux pas t'imaginer. Bon, eh bien, on m'envoie à Madrid, à l'hôpital pénitentiaire de Madrid. À l'époque, il y avait le gendre de Franco, Villaverde, qui étudiait, qui se préparait pour être chirurgien. Qu'est-ce qu'il faisait? Il venait faire les essais avec nous, avec les prisonniers, à l'hôpital. Quand je suis passé, moi, on était trois, en plein hiver, au mois de décembre, quelques jours avant la Noël. Le premier passe, il le saute avec le brancard et il le laisse dans le couloir. Avec un vent qui passait par là-bas, un courant d'air, mais froid, glacial, mais ça gelait là-bas. Il le laisse là-bas, couvert avec un drap. L'autre passe, pareil, à moi. Je passe, on m'ouvre tout ça là, on m'enlève des intestins, des morceaux de testicules, je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait là-dedans. De nouveau, avec le brancard, et on me laisse dans le couloir, couvert avec un drap. Au bout de je ne sais pas combien de temps, il y a Valverde, je le dis bien fort, Valverde, le gendre de Franco, qui sort de la cabine de marche, je sais pas quoi, tout habillé, avec tout. Et puis, il passe. Il y a un infirmier qui était un prisonnier, qui s'appelait Andrés, qui était aussi des jeunesses libertaires, qui était un ami à moi, qui l'accompagnait. Bon, alors, il regarde le premier. Este está muerto. Celui-là, il est mort. Il arrive au deuxième. Este está muerto. Voilà. Il arrive à moi. Este está muerto. Voilà. Andrés, il s'est arrêté. Il vient me voir. Je ne sais pas comment il a fait, il me l'a raconté après. Moi, j'étais à l'épaule, moi. Et je ne sais pas, il m'a mis quelque chose devant le nez, je ne sais pas. Et il a vu qu'il y avait quand même de le nez. Alors, il est parti en courant chercher le chirurgien avant qu'il sorte de la prison, parce qu'après, il ne peut pas rattraper après. Il l'a rattrapé. Il allait déjà partir. C'est Valverde, c'est Valverde, venga, venga, venga. Alors, tu le rentres, ¿qué pasa? Que hay uno que no está muerto, ¿eh? Ah, bueno, pues lo metéis en la nevera, pues metéis al frigo. C'était moi. Il fallait de la pénicilline. Andrés, il lui dit à Gregorio Gallego, un écrivain espagnol, il était de la CNT aussi, qu'il lui dit à Gregorio, lui dit, Angelito, à l'époque on m'appelait Angelito, Angelito le hace falta penicilina, si no tiene penicilina se muere. ¿Cómo trouvé penicilina? Alors Gregorio, lui, il avait des relations à l'extérieur, il a contacté quelqu'un qui était très bien d'ailleurs, et il lui a expliqué vite fait, et celui-là, Melchor, appelé Melchor, et bien celui-là, il a procuré de la penicilline tous les matins. Tous les matins, il faisait entrer de la penicilline. Qu'on lui donnait directement à Andrés. Et Andrés, il venait tous les matins, il me mettait la pénicilline. C'est comme ça que je me suis sauvé. 4-5 jours après, j'ai ouvert les yeux. Voilà. Alors, il y avait des sœurs qui venaient, et puis, il restait un moment. Quand elles sont venues, elles ont vu que j'ouvrais les yeux, milagro, milagro, milagro. Et Andrés, il nous dit, que hostias de milagro, la penicilina es el milagro. Il t'enterrait vivant, t'en foutais. Il te mettait dans la caisse et puis c'est bon. Et les autres, peut-être qu'il y en avait un qui était encore vivant, je ne sais pas. Mais en fait, il s'est procuré de moi, il ne pouvait pas faire tout le monde. Hein. Je viens de loin.
C'était Angel, condamné à mort, sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore soutenue par la région et la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.